Bon, on va démarrer la deuxième conférence. Donc, je vous présente Jean-Pierre-Henri Azéma, qui est docteur en géographie et qui va vous parler de petits moulins et de micro-production électrique. Voilà, je vais lui laisser la parole, c'est lui qui en sait le plus.
Bonjour à tous et merci d'être venu pour cette première présentation. Donc c'est un peu un sujet que j'ai traité pour la circonstance, donc spécifiquement pour Alternabio. Pour moi, c'est un anniversaire, parce qu'il y a 30 ans exactement, j'ai commencé à m'intéresser aux moulins. C'était autour des rameaux, Pâques, il y a 30 ans, 82. Bon, c'est dû à un accident familial, du moins, vous savez, les remembrements. Et on prend conscience qu'on a un patrimoine. On prend conscience qu'on a un patrimoine millénaire. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. L'historique rapide et le fonctionnement des moulins. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui au niveau de la production d'énergie électrique de manière autonome? Donc, les petits moulins à eau et micro-production autonome d'électricité, donc 1200 ans d'énergie renouvelable, l'exemple de l'Aveyron. Donc, je vais compléter la présentation de M. Garcia. Donc, je suis géographe, diplômé de l'Université Paris 4 Sorbonne et du CNAM. Je suis consultant indépendant, spécialiste des moulins et du patrimoine industriel. Je suis chercheur associé au Framespa CNRS 5136, Université Toulouse-Lautrec. Et depuis le début de l'année, je suis expert près de la Cour d'appel de Montpellier. Alors, quelques repères préalables. C'est toujours intéressant de resituer l'homme par rapport à son environnement. Et quand on parle de moulins, vous allez comprendre que c'est indispensable. Un homme adulte travaillant physiquement produit une énergie de 130 watts par heure. En 8 heures, il produira 1 kilowatt, soit l'équivalent d'un débit de 100 litres d'eau permanent chutant de 1 mètre pendant une heure. Voilà, ça vous situe déjà la production d'énergie. La consommation électrique française, donc au plus fort de l'hiver, il n'y a pas si longtemps que ça, le 7 février 2012, à 19h exactement, la France a consommé 100,5 milliards de kilowattheures instantanées. Vous voyez les rapports ? 1 kilowatt pendant 8 heures pour un homme, et là on consomme 100,5 milliards de kilowattheures, soit 1,520 kilowatts, 1 kilowatt et demi par habitant à ce moment-là. Donc les moulins à eau traditionnels occitans. On est dans une zone, vous allez voir, une géographie particulière. Donc les plus anciens moulins à eau aveyronnais sont mentionnés dans des chartes à la fin du 9e siècle. Donc à Vabre-l'Abbaye, à quelques kilomètres d'ici, donc le moulin de Jacques Dardier est le plus ancien moulin peut-être existant en France encore en activité. Donc il existe depuis l'an 930, 940, je ne sais plus. Et donc on avait aussi Saint-Léon dans les contreforts de les Vézoux. Les moulins à eau qui nous concernent sont ceux qui ont des puissances, disons, égales à inférieures à 10 kW. Parce qu'au-delà, c'est plus trop de petits moulins. Hein. On commence à être dans la production plus que locale. Donc une carte, je ne sais pas si vous avez bien l'apercevoir, parce qu'on manque un peu de contraste. Une carte de France, parce que le projecteur est un peu trop décalé. Parce que l'image à l'écran, elle est mangée à gauche, mais enfin, c'est pas grave. Donc, cette carte montre les différents types de moulins qui existent en France. Et nous sommes dans la partie sud, qui est verte, qui correspond aux moulins traditionnellement mus par des roues hydrauliques horizontales, qu'on appelle en occitan les roudets. En blanc, c'est toute la partie nord, où la roue majoritairement est représentée par la roue verticale, roue à aume ou roue à auger. Voilà, donc vous voyez, on est au cœur de cette zone, l'Aveyron. Là, mon pointeur ne marche pas, mais on est au cœur de la zone. Quelques repères. La pente des rivières est toujours plus forte dans la partie supérieure de leur cours. Et là, la pente se calcule en pourcents. C'est là que nous trouvons les chutes les plus hautes et les débits relativement faibles qui se comptent en dizaines de litres, ou voire on arrive à quelques centaines maximum. Et dans la partie basse des cours d'eau, la pente est plus faible et se calcule en pour mille cette fois-ci. Donc, souvent, dans la basse baie de l'Aveyron, on trouve c'est un mètre de chute pour un kilomètre ou pour un kilomètre et demi. Voilà. Alors, comment fonctionnent nos moulins dans notre région? La partie amont, ben, il y a une chaussée, c'est un ouvrage submersible. Ce n'est pas un barrage, parce qu'un barrage, ça englobe le lit majeur et le lit mineur de la rivière. C'est un ouvrage déversant qui permet d'orienter l'eau vers le canal qui va arriver vers le moulin. Donc on a une dérivation avec ponctuation régulière de vannes de décharge et d'entretien. C'est-à-dire que quand il y a trop d'eau, ben, on ouvre les vannes et on la restitue dans le talweg, le lit naturel de la rivière. Ou alors, quand on veut nettoyer, on procède par nettoyage successif selon les travées, les sections du canal. Donc vous avez en dessous la coupe des moulins qui vous montre comment sont établis les moulins. Là, ce sont deux moulins étagés, l'un en dessous de l'autre, qui bénéficient du même canal. C'est le cas exactement des moulins de Sévérac-le-Château, où j'habite. Donc on est avec deux moulins sur le même bief. Il y en a, des fois, il y en a beaucoup plus, même. Les moulins d'étang. Le moulin d'étang, ben, comme celui, je ne sais pas si vous connaissez bien, du Rhinck, c'est pas très loin d'ici, le moulin de François Fabier est un moulin d'étang. Donc là, on a une digue qui barre la vallée, je veux dire, le lit mineur, le lit majeur, et au-delà même, puisque la digue peut faire 5-6 mètres de haut, et ça prend plus que la zone inondable. Donc ce genre de moulin existe en Aveyron, il y en a quelques-uns. Vous voyez en dessous la coupe, une forte digue contre laquelle s'appuie le bâtiment. Un pertuis au fond de la digue qui permet d'arriver jusqu'à la salle des roues horizontales. On rencontre ce type de moulin beaucoup plus dans l'ouest, dans la région de Rignac-Montbazin. Il y en a très peu ailleurs, quelques unités égarées. Autre type de moulin qu'on rencontre dans notre région, toujours avec des roues horizontales, sont les moulins sur source karstique. Donc vous avez le moulin qui va bloquer une source, une émergence. Rarement une résurgence, mais surtout une émergence au pied d'un causse, au pied d'une grande falaise. Donc le moulin va profiter du débit qui est souvent très abondant, assez régulier. On peut donner comme exemple, il y a à côté de Corpes, dans la vallée de la Dourbie, il y a la foule de la Vis, les vignes dans les gorges du Tarn, la Frigière près de Rodez, près de Clairvaux. Et parfois même, vous avez des moulins qui sont des moulins dérivés, donc avec un canal, avec renfort d'une source, qui donne un peu plus d'appoint pour le débit. Un moulin assez rare, mais qu'on rencontre surtout sur la bordure languedocienne, c'est le moulin de type Aruba, A-R-U-B-A-H. C'est une, à mon avis, c'est une dénomination d'origine espagnole. Ce sont des moulins qui sont principalement alimentés par des tout petits ruisseaux et qui ont des réservoirs très cylindriques, très très hauts, de faibles dimensions. Et là, on a un effet de force par la hauteur de la colonne d'eau. On est presque avec l'ancêtre de la conduite forcée. Il n'y a pas beaucoup de durée de fonctionnement, mais une forte pression. Et quelques moulins ont été aussi construits dans la vallée de l'Hérault, dans la vallée du Gard ou du Gardon, comme des casemates, tout en maçonnerie, pour résister aux crues. Ce sont des moulins submersibles. On les voit tout près de Saint-Guillaume-le-Désert, pour ceux qui connaissent cette section de la vallée de l'Hérault. Alors, nos moulins, donc, dans notre région, sont conçus surtout, pour ceux qui nous intéressent, comme des moulins dérivés, donc canal. Le moulin fait poids et offre une résistance à la poussée de l'eau qui est dans le réservoir contre le moulin. Donc, vous avez la coupe du système. Ce sont des systèmes qui ont été longtemps décrits par les anglo-saxons comme étant des moulins archaïques. On voit qu'ils ne connaissent pas très bien la question, parce que depuis, les recherches qui sont faites prouvent qu'au contraire, ce sont des moulins qui sont très élaborés, ne serait-ce que par la qualité de l'architecture qu'ils nécessitent. Ce sont des moulins qui sont souvent construits tout en pierre, avec des voûtes en pierre, avec de l'eau qui traverse les fondations. Donc pour maîtriser cette partie technique, il faut vraiment être, je dirais, très qualifié. Il est vrai que le sud de la France a longtemps bénéficié du savoir-faire des Romains, puisqu'on a été romanisé bien plus tôt que le nord de la France, et qu'à mon avis, il y a quand même un gène culturel de savoir travailler la pierre, du savoir construire en pierre. Donc nos moulins ne se voient pas. Les roues sont cachées sous les voûtes, contrairement au moulin à roue verticale qui exhibe sa roue sur un pignon. Et en fait, c'est très facile à construire un moulin à roue verticale. Le bâtiment en lui-même est un bâtiment normal avec la roue qui est sur le pignon. Or là, dans le cas de la roue horizontale, il faut bâtir le moulin sur la pièce qui va accueillir les roues. Donc il faut faire des voûtes, il faut faire une grande voûte ou des petites voûtes. Et le moulin est un bâtiment pont qui est sur le système hydraulique lui-même. Le plan que j'ai réalisé, que vous voyez là, c'est un moulin du Carlades, c'est le Nord Aveyron. On peut retrouver aussi ce type de moulin dans la partie cantalaise, dans le nord de la Lozère. Dans ce cas, vous avez un bâtiment traditionnel. Donc là, il n'y a pas de voûte, mais un plancher. Et là, l'eau n'arrive pas sous pression, mais par gravité au fond d'un chenal en U. Et c'est la vitesse de l'eau acquise pendant la chute qui fait tourner la roue. Donc vous voyez donc la paire de meules mue par une roue horizontale, l'axe, la potence pour soulever les meules, la trémie, enfin tout le nécessaire pour faire fonctionner un moulin à grains traditionnel. Et l'ouverture de la vanne se fait par une perche qui est fixée à l'extrémité de la vanne elle-même et qui pivote. Vous voyez, donc il y a les deux positions et qui permettent de donner l'eau ou de l'arrêter naturellement. Alors il n'y a pas beaucoup de l'eau dans le réservoir, il y a 20 cm d'eau. On fonctionne là avec le débit, c'est au fil de l'eau. Donc moulin à eau, usine électrique et production d'électricité, quelques repères historiques. Là, il est quand même intéressant de faire ce petit rappel. Donc en 1863, le dictionnaire Littré donne comme définition du mot usine proprement et anciennement machine mue par l'eau. Or, cette définition est une définition qui date du XIIe siècle. Donc le mot usine est avant tout machine utilisant la force de l'eau. Hein ? Vous entendez bien ça ? Ce n'est pas lieu d'esclavage pour le travail. Hein ? Voilà. En 1869, il y avait 1670 moulins et usines hydrauliques en Aveyron. Je vous fais un petit tour en arrière. Le 30 septembre 1882, à Appleton, Wisconsin, États-Unis d'Amérique, on voit la première usine hydroélectrique créée dans le monde. C'est un moulin à papier qui est Vulcan Street. Et donc, il produit 12 kilowatts et demi. Donc, c'est en Amérique. C'est au nord-ouest de Chicago, 200 kilomètres au nord-ouest de Chicago environ. On pense que toujours c'est les Français. On parle d'Aristide Bergès, mais il arrive très tard, Aristide Bergès, à côté de ça. Hein. Donc le 1er septembre 1884, à Bellegarde-sur-Valserine, dans l'Ain, donc c'est à l'extrémité est de l'Ain, pas loin de la vallée du Rhône, c'est la première ville française qui est électrifiée par un moulin-usine hydroélectrique. Et quand vous allez à Bellegarde, je peux vous dire que le site il est sacrément encaissé, qu'il fallait beaucoup d'audace pour installer une usine électrique dans cet endroit. Je dis bien usine électrique, pas micro-centrale. Hein. Micro-centrale, c'est un oxymore, ça ne peut pas aller ensemble. Hein. On ne peut pas être centrale et mini. Hein. Et historiquement, c'est usine. Usine dans le sens que j'ai décrit. Hein. Et même dans l'administration, encore aujourd'hui, on parle d'usine. Voilà, 1884, toujours cette période. Le moulin de l'abbaye de Bonneval, sur une borale, donc la borale de Flaujac, à Espalion, devient la première usine hydroélectrique aveyronnaise. Vous voyez, c'est un vieux moulin que les moines avaient installé et que les moniales ont remis en état pour produire du courant nécessaire à la fabrication du chocolat de Bonneval, parce qu'elles ont utilisé des machines. Dans un premier temps, il y avait un système par transmission par câble, c'est-à-dire qu'on prenait la force sur la roue et on la transmettait par un câble en acier jusqu'en haut du versant où se trouve le monastère. Et ensuite, ça va être l'installation d'une usine électrique, donc en 1884. Elle fonctionne toujours. Bon, à mon avis, elle ferait bien d'être un peu révisée, mais elle fonctionne toujours. En 1885, La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est près de d'Annemasse, par là-bas. C'est la deuxième ville française à être électrifiée, toujours par un moulin. En 1886, c'est Bourganeuf, dans la Creuse. Donc l'usine des Jarreaux, que vous avez là en photo, qui a été construite spécialement sur un emplacement de moulin, permet à Bourganeuf, dans la Creuse, petite bled de rien du tout, de devenir troisième ville électrifiée de France. En 1887, c'est Châteaulin, dans le Finistère. Bon, la Bretagne n'est pas réputée pour ses grandes chutes, mais grâce à cette usine, devient la quatrième ville électrifiée de France. Et en 1888, c'est au tour d'Espalion. Donc évidemment, ils avaient le modèle à 5 km à côté avec l'usine de Bonneval. Espalion devient la cinquième ville électrifiée de France. Et le moulin est au bout de la chaussée, donc sur la partie gauche de la chaussée, de la photo, juste en dessous le pont Neuf. Donc, durant la guerre 39-45, les moulins ont joué un rôle important. Et là, je veux citer l'exemple du village de Curières, dans le nord Aveyron, et de la scierie de Tartabiza. Grâce à la production d'électricité de cette scierie, le propriétaire pouvait alimenter un poste de radio à Galène. Donc, c'est la famille Salel. Et ils ont pu capter tous les messages de la résistance grâce au poste de radio, alors qu'il n'y avait pas d'électrification dans cette zone-là. Donc, des moulins qui ont joué un rôle capital pour notre liberté, en fait. Hein. Voilà ce que c'est qu'un petit moulin qui produit du courant électrique. Là, c'est une vue du moulin de Buret à Bromma. Vous voyez, en dessous, il y avait une petite roue bricolée par le meunier, c'est-à-dire une poulie en métal avec des pales en fer, dans une petite, un petit canal en bois en forme de U, qui renvoyait par une petite courroie directement sur une autre poulie qui faisait tourner la dynamo, et on obtenait un kilowatt électrique, et on était très très heureux de ce kilowatt. Très heureux. Ici à Saint-Geniès-d'Olle, toujours dans le nord Aveyron, le propriétaire a vraiment travaillé la question, puisqu'il installe une dynamo électrique de la compagnie générale d'électricité de Creil, donc un cheval, donc ça avait 750 watts, et s'est entraîné par un roudet et renvoyé l'énergie, était renvoyé par le moyen d'un pont d'Aronde. Vous voyez, on recycle tout. C'est assez intéressant de voir que les objets n'ont pas forcément une seule destinée. Donc ça marche encore. Il suffit d'aller visiter ce moulin qui est vraiment, la famille Balitran vous accueillera avec la plus grande courtoisie. Donc 1946 marque une date importante dans notre histoire. C'est la nationalisation de la distribution d'électricité et la création d'EDF et Électricité de France. Cela a des conséquences quand même. Parce que de 1946 à 2012, la société a changé, on a eu un exode rural massif. Et surtout, ce réseau national constitué par EDF a démobilisé les propriétaires de moulins non soutenus par l'État. Donc cette loi a créé une structure, mais en fait a fait comprendre aux gens que ce n'était plus la peine de s'occuper de ce qu'ils avaient déjà fait. Donc il y a un abandon de potentiel énergétique constitué au cours de 12 siècles. Hein. On a vu, l'abbaye, c'est autour de 900. Hein. Et tout le monde s'est mis à demander massivement des raccordements au réseau national. Voilà. Et de plus, ce qui est inquiétant, c'est que l'administration, de façon générale, a cautionné la destruction de très vieux sites de moulins. Donc elle a cautionné comment ? Par le calibrage des cours d'eau, par les remembrements agricoles, par l'aménagement et la rénovation urbaine, et par les aménagements routiers. Jamais on s'est posé la question à chaque fois qu'il y avait un moulin, est-ce que ça peut être un site intéressant ? Est-ce qu'il ne faut pas garder un potentiel ? Voilà, pas de question, on détruit, pas de problème. Bonjour Stéphane. Donc, quatrième point, les moulins à eau, usines et picots production d'électricité aujourd'hui. Alors, il y a des démarches qui sont dans ce sens. Et on va voir un peu, faire le point de la question. Donc, en 2012, il y a environ 200 usines hydroélectriques qui fonctionnent en Aveyron. Elles ne nous concernent pas parce que c'est vraiment des grosses installations qui produisent du courant électrique nécessaire, je dirais, au fonctionnement des agglomérations et des villes qui sont proches. Parce qu'il faut bien se rendre compte que même les usines hydroélectriques actuelles, leur électricité, faut pas, quand on me dit que ça va en Espagne, c'est n'importe quoi. On consomme l'énergie au plus près de sa production. Donc de l'électricité produite près de Millau va être consommée près de Millau ou près de Saint-Afrique. On ne va pas s'amuser à transporter du courant pour plaisir. Donc il nous reste maintenant 1400 petits sites par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, 1700, 1600, qui n'ont pas bénéficié pour l'instant d'intérêt. Hein. À ce niveau-là, je vais vous donner un petit exemple local, puisque je travaille avec la Maison de la Mémoire et toute l'équipe de la Maison de la Mémoire de Saint-Afrique. On a engagé une recherche sur les moulins. On a trouvé 40 moulins qui produisaient de l'énergie hydraulique ici. Bon, il n'y en a plus qu'un qui marche. Donc personne ne s'est posé la question que sont devenus les 39 autres. Vous voyez, voilà, c'est intéressant pour Saint-Afrique. Donc en 2012, pour produire du courant électrique, il faut un moulin en état de marche. Donc on a vu comment ça fonctionnait, un moulin, on a vu les plans. Avec tous ces accessoires, alors ce qu'on appelle accessoires, c'est en matière juridique tout ce qui est nécessaire au fonctionnement d'un système. On ne vous vend pas la voiture sans un volant ni sans des roues. Ça forme système, donc ce sont des accessoires. Là, pour le moulin, les accessoires s'appellent chaussées, canaux, bâtiments ou réservoirs. Donc il y a deux situations. Soit votre moulin est dit fondé en titre, usine fondée en titre, ce qui nécessite quand même la reconnaissance de ce moulin avant la Révolution. Parce que la nuit du 4 août 1789, vous savez tout ce qui est advenu quand même, la mise à plat d'un système féodal. On a dit maintenant, terminé, on abolit les privilèges. Donc en matière de moulins, ça s'est traduit par trois dispositions. Un, n'importe qui pouvait construire un moulin, parce qu'avant il fallait autorisation seigneuriale ou disons des édiles. On est dans le midi de la France, donc on était beaucoup plus lâche, beaucoup plus ouvert, on avait beaucoup moins de contraintes. Déjà au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, il y avait des bourgeois qui avaient établi des moulins. Mais enfin là, la loi s'applique de manière uniforme sur le territoire. Donc la loi, c'est maintenant n'importe qui peut établir un moulin, à condition qu'il ne nuise pas au moulin déjà en place. Premier point. Deuxièmement, ceux qui étaient obligés d'avoir recours à un moulin pour la banalité ne sont plus obligés d'aller à ce moulin. Ils peuvent choisir le moulin. Hein. Et puis, il y a un troisième point que j'ai oublié. C'est pas grave. Comme d'habitude, quand on prend pas de notes. Voilà. Alors, le deuxième statut, c'est les moulins qui sont construits après 1789. Donc là, ils sont soumis à autorisation. L'administration va faire une enquête de manière à voir effectivement que ça n'use pas au moulin déjà établi. Et surtout, il y a quelque chose qui préoccupe l'administration, c'est l'inondation. Donc un moulin n'est pas intéressant par le volume qu'il détourne, quoique à l'époque, mais surtout par le niveau de sa chaussée. C'est-à-dire que est-ce qu'ici il y a beaucoup d'eau, ça va déborder sur le terrain voisin. Voilà, donc c'est un équilibre entre le volume débit, le débit qui va être dérivé et, disons, les potentialités de nuisance de l'ouvrage s'il est trop haut. Donc ces moulins vont être régulièrement remis à niveau, visités par l'administration et suivis. Donc quel matériel maintenant trouve-t-on pour faire marcher nos petits moulins aujourd'hui ? Quel est le marché des picoturbines ? Alors c'est un marché un peu informe, qui n'est pas très structuré. Là, je vous présente la photo d'une picoturbine qui est de marque Zénith. Alors, ça a été installé par le président de notre association, l'association Rouergat des Amis des Moulins, Jean-Louis Zer, en 2008 à Pont-Salard. Donc, c'est un matériel, j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé d'informations, donc c'est assez difficile. Toujours est-il qu'il a eu beaucoup de soucis. Parce qu'il a acheté ça, ça vient de Chine. Donc il a fallu reprofiler la turbine. Il a fallu construire tout un tas d'outils annexes. On se une huche d'amener pour calibrer l'eau, faire une grille pour éviter que toutes les branches et les feuilles aillent dedans. Il a fallu annuler les vibrations parce que c'est mal conçu. C'est fait pour passer d'une rizière à l'autre, vous voyez un peu, d'un niveau de rizière à l'autre. Voilà, donc elle fonctionne à présent, mais il a dû faire tout un tas d'adaptations. C'est pas, disons, du matériel prêt à l'emploi. C'est pour être clair. Bon, surtout maintenant, il en a trois, il fait 3 kilowatts. 1 kilowatt chacune, ça reste encore à confirmer. Il existe aussi la marque PowerPal, et elle qui est fabriquée au Vietnam. Et petite anecdote, il y a un adhérent, quand j'étais responsable de la RAM, des Amis des Moulins, il y a un adhérent qui en a installé une sur le Lévézou, et je lui dis, alors elle marche ta picoturbine? Il me dit, bah, je ne suis pas très content, j'ai plein de problèmes, c'est fabriqué au Vietnam, actuellement il y a pénurie d'eau au Vietnam, alors comme ils sont tributaires d'un barrage hydroélectrique qui fournit l'énergie pour faire marcher l'usine qui fabrique les turbines, la fabrication est interrompue momentanément, et puis quand il l'a reçue, il y a eu plein de trucs qui... Je ne sais pas si elle marche encore aujourd'hui, honnêtement. Voilà. Hop. Trop rapide. Il existe aussi ce que j'ai trouvé sur Internet. Alors là, ce sont une marque que je ne connaissais pas, Var Speed Hydro, de type Kaplan. Donc vous voyez quand même des choses assez lourdes, 300 kg pour 4 mètres de chute, 148 secondes, 3 kW. Pour moi, ce n'est pas encore opérationnel. Puis encore, c'est relativement cher. Tout ça, on va voir tout à l'heure. Mais je n'en ai pas vu installer. Par contre, la Pico AZ Technologie est conçue en France, mais fabriquée en Chine, évidemment. Le responsable de cette entreprise était venu dans une réunion de la Fédération des Moulins de France il y a quelques années. Lui, il est intéressé, il travaille avec la Chine depuis le tout début, donc depuis 35 ans. Et sa machine, il l'a fait concevoir en France, mais fabriquée dans autant de pièces détachées qu'il y a que d'usines. Donc, parce que si vous donnez ça à une seule usine en Chine, dans un mois après, vous avez la copie. Ils ne sont pas très loyaux par rapport à ce qu'on leur donne à faire. Hein. Donc lui, travaillant avec la Chine depuis 1978, fait fabriquer ses pièces dans des usines très différentes, ce qui fait que chacune ne peut pas avoir la totalité du projet. Donc cette turbine a été conçue pour satisfaire les pays qu'on appelle émergents, voie de développement. Elle est très légère, Elle est faite en polypropylène armé. Son diamètre, c'est 10 cm. Vous voyez, donc ça se racole très bien avec les tubes Nicol ou les autres tubes en plastique qu'on peut trouver dans le commerce. 300 watts, donc à l'époque, c'était surtout pour éclairer des locaux, mais vous savez que c'est très important, l'énergie électrique dans les pays sous-développés. Avec ça, vous permettez à des enfants d'apprendre le soir avec une lampe électrique. Vous arrivez à cuisiner, vous arrivez à, parce que vous avez un peu de lampe électrique, vous n'êtes pas dans l'obscurité, mais on ne se rend pas compte, nous, avec la débauche d'énergie aujourd'hui qu'on a dans cette pièce, par exemple, la qualité de vie qui change rien qu'avec 300 watts. Bon. Donc cette fabrique de turbines existe toujours. Vous voyez, donc la turbine se compose de trois parties. Il y a un régulateur électrique et électronique à l'arrière. Il y a une sonde aussi pour la surproduction quand il y a trop d'énergie et qu'on ne consomme pas. Bon, ben, il y a une sonde pour dissiper l'énergie excédentaire. Des aubes directrices et la petite roue qui a plan fixe. Alors, il y a eu quelques soucis entre l'ingénieur avec qui travaillait Roger Renucci. Et donc, maintenant, c'est en train de se régler. L'entreprise va potentiellement repartir prochainement, donc sous des nouvelles bases. Parce que quand j'ai rencontré Renucci, il était parti sur une base de 300 watts. Et j'ai dit, 300 watts, pour nous, ça ne sert à rien, quoi. 300 watts, on ne peut rien faire. Donc j'ai fait une étude pour lui et je lui ai dit, les moulins, ça devient intéressant à partir de 3 kilowatts. Parce qu'avec 3 kilowatts, déjà on fait marcher 3 radiateurs, on peut chauffer une maison, on a des lampes, ça devient intéressant. Donc il a réfléchi là-dessus et donc il est en train de mettre au point une stratégie industrielle et commerciale pour repartir sur une nouvelle base avec d'autres ingénieurs. Voilà. Donc en 2007, ils sont venus avec toute l'équipe est venue pour installer une Pico chez moi à Sévérac-le-Château. Donc vous avez la Pico turbine dans sa position verticale avec sa jupe qui permet de l'aspirateur. Hein. Donc vous voyez, ça fait la petite barre blanche, ça fait 10 cm en bas. Hein. Donc ça fait haut, c'est haut comme la table debout comme ça. Donc voilà l'installation qui avait été faite. Normalement, ça fonctionne verticalement, mais les moulins de nos régions, je vous expliquais, hein, sont des conduits obliques. Donc là, on l'a mis à 45 degrés. Oui. Ça n'a pas été simple. Il a fallu faire un bâti en bois expérimental. Donc ça s'est fait. Il fallait faire aussi une grille pour éviter aux feuilles de rentrer, parce qu'avec 10 cm de diamètre... plus la partie centrale du corps de la turbine, vous avez peu d'espace pour l'eau et les moindres branches ou feuilles l'arrêtent. Donc ça, c'est un problème. Donc tout est à concevoir de manière maintenant que les tests ont été faits, qu'on a vu les inconvénients de le système actuel. Tout est maintenant prévu pour travailler de manière plus intégrée en prenant en compte tous les paramètres de fonctionnement normal d'une picoturbine. Voilà la coupure de presse. Donc, excusez-moi. Le 16 mars 2007, donc vous voyez, il y a 5 ans. Donc on voit les deux personnes qui étaient venues pour Renucci et son ingénieur pour mettre en place. Donc voilà, ils ont pris un tube Nicol ou je ne sais plus, ou l'autre marque, qui devait faire 3 mètres de long. Donc il a fallu le raccourcir un petit peu pour que la chute puisse fonctionner. Il ne faut pas qu'il y ait d'air qui rentre. Donc on avait fait un système... qui permettait à l'expérimentation de se dérouler correctement. Donc j'ai fait une recherche un peu sur Internet pour avoir quelques autres exemples de picoturbines. Vous avez quand même différents modèles. Donc il y a la turbine Turgo. Alors qu'est-ce que c'est Turgo ? Je ne vous ai pas montré de photo, mais on va dire que c'est le roudé traditionnel. Du sud de la France, mais avec des aubes mieux profilées. On est entre le roudé traditionnel et la turbine Pelton, pour ceux qui connaissent un petit peu, pour les spécialistes. C'est-à-dire que c'est une roue qui tourne très vite sur elle-même, très profilée, avec des injections d'eau fortes et un rendement assez correct. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle demande beaucoup de chute. Vous voyez, donc 30 mètres minimum pour produire 3 kW avec 17 litres secondes. D'autres types Kaplan, comme celle que j'ai présentée. Donc, vous voyez, il faut 4 mètres, entre 2 et 4 mètres pour produire 3 à 4 kilowatts avec, ça dépend, 130 litres, 300 litres. Voilà, 300 litres, c'est On va dire que c'est rare dans nos régions, 300 litres, on a plus les hauteurs de chute comme ça, on se trouve avec des chutes plus basses. Hein. Voilà, donc c'est pas encore tout à fait calé. Et puis quant au prix, c'est des prix qui sont hors d'atteinte pour quand on fait le kilowatt installé, c'est affreux, quoi. 16 000 euros pour produire 4 kilowatts, pour l'instant, c'est pas du tout un prix compétitif. Le travail de Renucci aboutira à des prix bien, bien plus bas parce qu'on travaille sur des matières qui sont plus faciles à mettre en œuvre, qui seront produites en série. Beaucoup plus longue et à des tarifs plus bas, parce que là on peut pas, si on fait des tarifs comme ça c'est pas possible. Je me rappelle plus le prix de la turbine de Renucci parce que je ne l'ai pas en mémoire, mais il a participé à un colloque il y a 6 ou 7 ans à Bruxelles justement sur l'énergie hydraulique, et il y a un Allemand qui arrive avec une picot turbine Kaplan de 10 cm comme ça, et il dit c'est 40 000 euros. Elle est en bronze, évidemment, pas variable, tout ce qu'on veut. Et lui, il arrive avec sa petite turbine en plastique, il dit c'est 1500 euros, ou un truc comme ça. Ça jetait un froid, je crois que... voilà, c'est le rapport qu'il faut arriver à obtenir, parce qu'on ne peut pas favoriser ce genre d'installation si on a des prix trop élevés. On serait plus proche de la Turgo à 2450 euros, voilà. Mais quand on voit 16 000 euros, ce n'est pas la peine. Donc, pour l'instant, le marché est encore immature. L'offre de matériel est très limitée, elle est difficilement cernable sur Internet. Je peux vous dire, j'ai passé des heures et c'est pas évident. On voit sur plein de trucs, vous savez, Internet, c'est les mots-clés, donc ça vous renvoie sur des impasses en permanence. Il y a beaucoup de machines qui sont très rudimentaires et non finies, surtout celles qui sont faites en Chine. C'est vraiment, je veux dire, un enfant ferait aussi bien dans un atelier bien guidé par un éducateur, hein. Il n'y a aucune offre intégrant tout le matériel, notamment le dégrilleur. Hein. Si vous n'avez pas de grille, ça ne sert à rien. Hein. Vous avez les premières branches qui arrivent, ça s'arrête. Donc il faut que l'eau soit propre quand elle arrive dans la turbine. Les équipements en général sont trop lourds. Or, il faut que ça puisse être monté par n'importe qui, par une femme comme par un homme. Si vous transportez des éléments qui pèsent 1 kg, 2 kg, une turbine qui pèse 7 kg, vous la prenez dans la main. Hein. La picoturbine, je ne l'ai pas là, mais vous la prenez dans la main. Hein. Et puis les prix trop élevés, donc... Les choses bougent, mais beaucoup reste à faire. Voilà. Donc, en conclusion, en produisant du courant électrique pour leurs propres besoins, les propriétaires usiniers s'intègrent dans une longue lignée de ceux qui ont œuvré dans leur moulin depuis 12 siècles. Donc, on est tout à fait dans une filiation historique. On change de mode de production, mais on est vraiment à valoriser des sites anciens. Les picoturbines permettront bientôt de maintenir en vie des milliers de petits moulins. Donc, quand vous faites 3-4 kilowatts, vous avez de quoi fournir vos propres besoins. C'est très compliqué aujourd'hui pour revendre son électricité, parce qu'il faut faire un parcours du combattant. EDF, c'est EDF qui est chargé de l'achat, donc parce qu'il est distributeur. Ça vous met c'est 2-3 ans de travail pour produire quelques papiers, des dossiers. Voilà, donc pour l'instant, c'est dissuasif. Donc il vaut mieux la produire soi-même. Même si on en fait un excédent, c'est pas grave. Le problème principal, c'est qu'il faudrait pour cela que l'État reconnaisse et prenne très au sérieux la picoénergie hydraulique comme énergie renouvelable. Or, vous regardez, et vous regarderez de manière plus précise maintenant, tout ce qu'on vous présente sur les énergies renouvelables, on ne vous parle jamais de la picoélectrique. Jamais, jamais. Voire on ne vous parle jamais de l'hydroélectrique. Ou alors, si on parle de l'hydroélectrique, on ne parle que des grands barrages. Or, les grands barrages, ils sont indispensables pour l'équilibre du réseau électrique national pour les périodes de pointe, qui représentent un milliardième de la production annuelle. C'est-à-dire que si vous n'assurez pas la production pendant le moment où il faut fournir 100,5 mégawatts, s'il n'y a pas les quelques milliers de kilowatts produits par l'énergie renouvelable, tout saute, tout pète. Le réseau n'est plus en sécurité, tout dégringole. Donc la picoénergie, elle, peut contribuer de manière très, très expressive à la sauvegarde de ce réseau, parce que là, c'est une donnée, je sors un peu de ce que j'ai écrit sur l'écran. Il y avait entre 100 et 120 000 moulins de petite taille en France. Or, il y a 2 000 producteurs d'électricité autonome. Donc il reste 118 000 sites potentiels. Qu'est-ce qu'on en a fait ? 118 000 qui produiraient ne serait-ce que 2-3 kilowatts, ça ferait des centaines de milliers de kilowatts qu'on n'aurait pas distribués et qui seraient en moins en charge sur le réseau. Hein. Donc, je crois que l'administration n'a pas fait son travail déjà en se disant c'est un site de production d'énergie, il faut le protéger. On a rasé, élargi les routes, construit. On n'a pas tenu compte de ça en disant c'est des vieilleries. Je suis désolé, un kilowatt, c'est pas une vieillerie quand on consomme de l'énergie. C'est pas une vieillerie. Aujourd'hui, c'est du moderne. Donc là, je crois qu'il faut vraiment changer le mode de fonctionnement. Là, j'ai vu un petit livre sur le stand de Plume. Les énergies renouvelables. On parle de l'hydroélectricité, mais des grands barrages. On ne parle pas des petits moulins. Il n'y a même pas d'historique sur les moulins. Donc 12 siècles d'histoire effacés. Vraiment effacés. On ne parle pas de la pico-énergie. Je ne vois pas pourquoi on parle toujours des grandes infrastructures, pas des petites, qui nourrissent vraiment un pays. Voilà, donc en 2012, vous avez une association de proximité qui est engagée dans l'expérimentation de pico-production hydroélectrique. Donc c'est la RAM qui fête ses 25 ans. Donc bon, j'en parle parce que j'ai été le fondateur de cette association. J'en suis plus maintenant que membre. Mais donc c'est toujours intéressant d'être toujours en contact associatif. Donc les petits moulins à eau sont indispensables à l'économie et à l'équilibre écologique de nos rivières. Écologique, je dis bien, parce que vous supprimez toutes les chaussées de moulins et vous allez voir vos cours d'eau réduits à néant. Il n'y aura plus d'eau du tout. Ce sera un filet d'eau chaud qui va couler avec des algues dedans. Donc tous ceux qui prônent la destruction de chaussées de moulins, et ils sont nombreux, et ils sont au niveau national représentés par les agences de l'eau, il faut le dire, hein, puisqu'on il y avait un programme de destruction de 60 000 chaussées de moulins en France. Bon, vu la dette qu'on a, je ne sais pas si on va engager ce projet complètement délirant. Au lieu d'inciter les gens ou de les aider à reconstruire leurs ouvrages pour avoir pour garder l'eau dans le milieu naturel, on incite à la destruction. Donc je ne sais pas où on se met les poissons après. Je ne sais pas où on va puiser notre eau. C'est pour vivre. Voilà, mais il faut le savoir. Renseignez-vous. 60 000 chaussées. Donc, et puis vous avez un langage qui est un peu tordu maintenant. On n'appelle pas démolir, on appelle effacer. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc moi, je suis très inquiet par rapport à ce genre de choses. Donc pour sauvegarder les moulins, ben, vous rejoignez, si vous vous êtes intéressé par la question, l'association Regard des Amis des Moulins et la Fédération des Moulins de France. Merci de votre attention. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a un petit document qui présente les objectifs et les moyens de l'association. C'est le président qui m'a envoyé ça la semaine. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par les ouvrages sur les moulins, j'en ai amené quelques-uns que j'ai faits. Autrement, je vous annonce que je suis en train de travailler, mais c'est un gros travail, sur la publication de ma thèse que j'ai soutenue il y a longtemps. C'est un ouvrage sur les moulins d'Aveyron qui devrait sortir l'année prochaine, je pense, pour les journées les journées des moulins du mois de mai. La fête des moulins et au niveau européen. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Je vais essayer du moins, je ne suis pas à science infuse. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur quelque part? Ah, ils sont là. Si quelqu'un veut diffuser le micro ou accepte de faire la navette. Je n'entends pas. On n'entend pas. Il y a le truc à mettre. Off ou on? Non. Il y a un deuxième micro, je sais pas. Il n'y a personne d'Alternabio là?
Là, ça marche?
Oui. Ah oui, c'est voilà. Bon.
Voilà, j'aurais juste voulu savoir au niveau de la picoturbine là, de AZ Technologies.
Oui.
Parce que j'ai cherché, moi, j'avais vu ça et c'était plus diffusé là où il y avait un distributeur.
Oui.
Est-ce qu'ils la produisent encore? Est-ce qu'ils la vendent encore? J'étais intéressé. Oui. Moi, je voulais juste ajouter une remarque par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je trouve que 300 watts, c'est très, très bien. Parce que les capteurs solaires, ça ne produit qu'une partie de la journée. Et pour faire l'équivalent en 300 watts, il faut déjà une bonne surface. Donc, une microturbine qui produit 300 watts, mais 24 heures sur 24, pour finir, ce n'est pas négligeable.
Mmh.
Et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser avec un petit débit, une petite chute d'eau. Parce que si on va dans le 3 kW, comme vous dites, ça va réduire déjà le potentiel d'utilisation pour tous ceux qui ont des petits ruisseaux.
Il faudrait prendre l'autre micro parce qu'on n'entend pas tout le monde. Tout le monde n'entend pas, là.
Il marche, celui-là. Peut-être que je ne parle pas bien dans le micro, en fait.
Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. Parce que, voilà, vous parlez plus près du micro, c'est mieux. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris la question. Tout le monde a entendu?
Sinon, je répète. Hein.
Voilà, répétez donc.
Donc, ma question, c'était de savoir s'ils la produisent encore, cette microturbine AZ Technologies. Et j'avais fait la remarque que 300 watts, pour finir, ce n'est pas si mal, parce que comparé à des capteurs solaires, qui ne produisent qu'une partie de la journée et sous conditions de soleil, Pour finir, 300 watts 24 heures sur 24, ça reste une production qui n'est pas négligeable du tout. Et moi, j'encouragerais à des petites turbines comme ça, parce que ce sont des petits débits, petites hauteurs d'eau. Donc, on peut en profiter dans beaucoup plus de lieux que si déjà on essaye de viser 2-3 kilowatts, qui là va réduire le potentiel d'utilisation. Moi, par exemple, j'ai un petit cours d'eau et avec la petite micro-turbine, je peux faire quelque chose. Si on va à une turbine qui avoisine les 3 kilowatts, qui va demander 70 litres seconde ou quoi, ben je peux plus. Donc moi, ça me plaît très bien que ça reste ce produit-là. Et je trouve que c'est pas négligeable, 300 watts.
D'accord. Alors, je vais vous répondre pour AZ Technologies. Donc, il y a eu quelques problèmes entre l'ingénieur et, je veux dire, le financeur, que je connais très bien, qui est un ami, Renucci. Donc maintenant, c'est réglé et ils repartent sur des bases saines. Évidemment, ça a permis... un laps de temps comme ça, sans lequel il y avait une perte d'indéfinition. Hein. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines et je lui ai dit, bon, je vais donner une conférence à Saint-Afrique, je vais parler d'AZ Technologies, est-ce que tu peux venir? Il m'a dit, non, je ne serai pas là, je suis en voyage d'affaires, parce qu'il navigue entre Chine et France, hein. C'est pas simple. Donc c'est reparti, mais sur des bases différentes. Bon, les 300 watts, je comprends ce que vous dites. Bon, moi, je me mets plus dans les moulins existants, donc là, vous parlez peut-être d'une chute à créer, peut-être, non? Ou d'un moulin.
Des petites applications privées, mais qui sont intéressantes.
Voilà, mais ça, c'est vrai que 300 watts, c'est déjà important. Mais quand vous avez un moulin, le moulin, bon, pour les idées, si vous voulez, les perspectives, c'est au moins de faire des picoturbines d'un kilowatt et demi ou de 3 kilowatts. Parce qu'avec ces deux formules-là, vous faites tout ce que vous voulez. 3 fois 3, ça fait 9. 4,5 ça fait 3,5 ça fait 4,5. Donc on arrive à faire des combinaisons. Et l'avantage pour l'industriel, c'est qu'il peut faire des séries calées. Il ne va pas faire des turbines de 4 kW, il ne va pas faire des turbines de 5, ni ainsi de suite. Il peut vendre une de 3 plus une de 1,5. Bon, les 300 watts, je ne sais pas s'il va les garder. Mais ça sera plus facile et c'est plus souple. Parce que généralement, dans les moulins horizontales, vous avez plusieurs moulins, l'un à côté de l'autre, plusieurs arrivées d'eau parallèles. Avec chacune sa roue propre. C'est l'avantage de la roue horizontale sur la roue verticale. C'est que, un, elle est facile à construire. Elle demande des sections de bois qui sont faciles à trouver. C'est du bois facile à travailler. C'est des formes pas très compliquées. Et donc, un meunier qui a fait appel à un charpentier de moulin peut facilement réparer lui-même. Une roue verticale, c'est beaucoup plus cher. Ça demande de la charpenterie. C'est compliqué. C'est beaucoup plus fragile. Parce que ça demande beaucoup plus d'exposition. Quand la rivière monte, c'est terminé. Elle peut être détruite en moins de deux. Donc, on avait des moteurs séparés. Et on reprend l'idée de moteurs séparés. Vous mettez trois turbines, une à côté de l'autre. Vous les mettez en série. 3 kW, 1 kW, 1 kW. Ça vous fait 5 kW de sortie. Parce que ça s'additionne. Maintenant, l'informatique et l'électronique ont permis de concevoir ces machines avec l'électronique de puissance qui permet de faire tout ce qu'on a besoin. Vous faites du courant alternatif, même avec 300 watts. Et c'est vrai que par rapport au solaire, l'intensité énergétique est plus grande avec une picoturbine qu'avec des panneaux solaires, c'est sûr. D'autres questions?
Mais donc, vous n'avez pas répondu, cette petite turbine de 300 watts, elle est encore en production ou pas?
Non, je ne pense pas. Il doit y en avoir en stock, mais je ne suis pas à la place du fabricant. Pour l'instant, c'était suspendu. Ce n'est pas que c'est arrêté, mais c'était suspendu. Merci. Une dame qui avait levé la main tout à l'heure, si vous voulez.
Je voulais dire plusieurs choses. Signaler, par exemple, qu'à ma connaissance, l'ensemble des grands barrages hydrauliques qui existent suffiraient à couvrir la consommation de tous les ménages français à raison d'un kilowattheure, une consommation de 1 kilowattheure. Et donc, c'est quand même intéressant, et c'est intéressant de savoir qu'ils sont en train d'être vendus aux privés norvégiens. Ça pourrait déjà servir à combler une partie des besoins de consommation. Mais je trouve très, très intéressant, justement, ces moulins, cette micro-hydraulique. Je voulais quand même dire que moi aussi, je pense que vouloir 3 kW par foyer, ça me semble énorme, quoi. Nous, par exemple, on vit en ce moment avec deux panneaux solaires, ça nous fait 80 watts. On s'en contente. Alors, on n'a peut-être pas tous les appareils électriques, mais je veux dire, c'est Il faudrait peut-être aussi réfléchir à fabriquer des machines qui consomment moins. Voilà. Et donc 300 watts déjà, c'est pas mal. Et par exemple, si on répartissait déjà les 1 kW qui existent, hein, les barrages hydroélectriques existent, on ajoute par exemple de la micro-hydraulique, ben, c'est largement suffisant à mon avis. Et alors, j'avais une, bon, par exemple, vous parlez d'un kilowatt de production, moi je trouve ça merveilleux. Et j'avais une question. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on pourrait concevoir les petits moulins dont vous parlez là, est-ce qu'on pourrait fabriquer ça avec des citernes? Imaginez une citerne d'une grande contenance, bon, alors, il pleut pas toujours bien sûr, mais de temps en temps ça se renouvelle l'eau des citernes, avec un tout petit débit, pour quand même avoir ce genre d'installation.
D'abord, pour reprendre la question des barrages, c'est vrai que c'est une question intéressante, mais faudrait-il qu'il y ait de l'eau? Or, je ne sais pas si vous avez vu le niveau des barrages actuellement, il est très 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 bas. Moi, je ne suis pas passé sur Garabi, ma tante qui est passée il n'y a pas longtemps sur Garabi m'a dit qu'il est aux trois quarts vide. Donc, question. Moi, j'habite, c'est vrai que je suis sur l'Aveyron. Ça fait 3 ans que j'ai le débit d'étiage. Il est monté 2 fois en novembre et en décembre lors des 2 crues, mais je me retrouve avec 10 litres seconde au lieu de 100. Voilà, actuellement, il faut savoir ça. Bon, les 3 kW, c'est 3 kW moyens. Sachez qu'un moulin ne fonctionne que par cycle. Il produit du courant l'hiver, mais l'été, il ne fait rien. Vous avez 90 jours où vous avez arrêt total. Donc pendant ces jours-là, vous faites quoi? Voilà. Faut le savoir, mais depuis toujours, depuis l'histoire des moulins, c'est une énergie cyclique. Vous avez de l'eau à partir de septembre, à l'époque, quand le système n'était pas trop déglingué, on commençait à avoir des grosses crues à partir de fin août, hein, les premières grosses crues, et surtout au 15 septembre, 15 novembre, c'était la période durant laquelle les crues étaient les plus graves ici. Les crues de 1875, les crues d'octobre 1963, c'était vraiment des crues qui ont ravagé la région. Mais on n'a plus ça, ça n'existe plus. Donc le moulin fonctionne beaucoup en hiver, jusqu'au printemps, et après l'activité décroît à partir de juin, et on ne fonctionne plus qu'avec éclusé. Les écologistes gueulent, mais je suis désolé, pendant 1000 ans on a fonctionné avec éclusé, et ça n'a pas empêché la variété des animaux et des poissons dans les rivières. Le fonctionnement par éclusé n'a jamais nui à l'environnement ni à la qualité biologique des rivières, c'est faux. Il faut regarder la vérité sur l'histoire. Il y avait encore des poissons il y a 50 ans, il n'y en a plus aujourd'hui, donc il n'y a plus de moulins. Donc ce n'est pas la causalité des moulins, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'activité des moulins, elle s'arrête au mois de juin. Et à l'époque, les activités économiques ici, Saint-Afrique, les filatures s'arrêtaient en juin. Et tout le monde partait dans les champs. On ne se plaignait pas qu'il n'y avait plus d'activité. Vous voyez, on a un mode de fonctionnement qui n'est plus en rapport avec celui de la nature. La nature donne de l'eau l'hiver, au printemps, l'automne, mais pas au mois de juillet. Pratiquement pas. Donc notre mode de fonctionnement, il n'est plus en adéquation avec ça. Alors produire du courant électrique 3 kW, oui. Pour l'idée des petites turbines sur le réservoir d'eau, sachez qu'au 19e siècle, on trouvait dans des revues comme La Nature, qui était l'ancienne nom de La Recherche, la revue scientifique La Recherche, j'ai trouvé dedans une turbine qui était grande comme ça, qu'on mettait sur le robinet à la maison. Pour ceux qui avaient l'eau à la ville, évidemment, au 19e siècle, dans les villes, il y avait un peu d'eau au robinet. Mais pour faire marcher un jouet, donc pour faire marcher le jouet du gamin, on mettait une picoturbine de 7 cm de diamètre sur la tête du robinet et on mettait une petite poulie, on faisait jouer le gamin avec. Bon, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit possible parce qu'on ne va pas produire plus de 50 watts ou je ne sais pas. Donc c'est, je sais pas, il faut quand même que l'eau soit là. Et actuellement, on vit une période où on est face à une sécheresse qui est considérable depuis presque 10 ans, depuis 2003. Les nappes ne sont pas remplies, les barrages non plus, on les voit plus pleins comme avant. Les rivières sont sèches, je m'inquiète beaucoup. Bon, il est vrai qu'on a beaucoup drainé aussi dans nos campagnes. Le Vézou, qui était une terre de tourbillard, rien n'a plus. Les rivières ne sont plus régulées du tout par le milieu naturel. Et voilà, ça, on le paye très sévèrement aujourd'hui, très sévèrement. Vous donnez le micro à monsieur. Ah non, pardon.
Je vous pose ma question pendant que je suis là.
Oui, faites.
Vous ne nous avez pas dit combien il y avait d'installations qui produisaient de l'électricité sur des petits barrages, enfin, ou plutôt des, dans des moulins, dans l'Aveyron. Est-ce que c'est de l'ordre de... Enfin,
C'est quelques-uns. Pour l'instant, il y a celui de notre président. Moi, j'ai fait un essai pendant quelques mois. À vrai dire, la technique n'étant pas très fiable encore...
J'en connais au moins deux.
Ah, vous en connaissez deux, c'est bien.
Il y en a un à Aïssen qui marche depuis 40 ans.
Oui.
Et il y en a un autre à Gagnac, avec un système de pales à Gagnac, à côté de Gaillac d'Aveyron, donc pas très loin de chez vous,
oui.
Avec un système de pales verticales et qui produit vraiment de l'électricité. Les gens habitent.
Il est où, ce moulin Gaillac ?
Le moulin de Gagnac, il est en dessous de
Gagnac. Mais Gagnac, ah non, c'est autre chose, ça. Ah non, c'est Jean-Marc Pierret, non, je connais.
Oui, c'est...
Il
marche et il l'utilise.
Moulin de Miège-Sol, mais c'est... Mais c'est pas pareil. C'est une turbine Kaplan, une Hydrolec, le Roi Sommaire. Non, mais ça n'a rien à voir avec la Picot, hein. On n'est pas en dessous... On est en dessous de 10 kilowatts. Lui, il fonctionne par éclusé d'abord, parce qu'il ne peut pas fonctionner à plein, souvent.
Oui, puis il est autour de 9 kilowatts.
Oui, mais bon, mais c'est une grosse machine qu'il a dû adapter.
Aïssen, c'est beaucoup plus simple. Hein.
Oui, mais Aïssen, c'est chez Arles, non ?
Non, c'est en bas, au moulin.
Hein. Oui, c'est ça.
Chez Lebrun.
Oui, ben, il y en a un autre aussi, mais il a bricolé une roue, en fait. C'est pas...
Oui, il y a une roue, mais qui marche bien. Enfin,
mais ce sont des installations, on dirait, à titre personnel. C'est pas, je dirais...
Mais c'est pas injurieux d'être...
Non, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Personnel. Moi, ce dont j'ai voulu parler, c'est les machines qui sont produites de manière à ce que vous voulez en installer une, vous l'achetez. Vous voyez, c'est standardisé, ça correspond à quelque chose. Bon, évidemment, chacun, moi j'en connais d'autres aussi qui font, qui ont adapté leur... des roues, qui ont fait des... Comment dire ? Ils ont fait de l'expérimentation, voilà. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'en connais quelques-uns du côté de Najac ou autre. Oui, moi, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à proposer à des gens des installations qui soient fiables, faciles à mettre en œuvre et un peu standardisées, voilà. Et pas trop chères, en plus, parce qu'autrement, c'est pas la peine.
Non ?
Oui, allez-y. Parlez près du micro, surtout.
Oui. Ça marche ?
Ben, parlez plus fort, peut-être.
Oui, je vais parler plus fort.
Voilà.
Bon, alors, moi, je découvre donc votre conférence avec bonheur, puisqu'il y aurait un potentiel qui était utilisé autrefois et qui ne l'est plus aujourd'hui.
Oui.
Je connais l'expérience du département du Gard, où le conseil général a... essayer de remettre en route toute cette microélectricité avec en particulier des turbines au fil de l'eau. Mmh. Ça marche, mais parce qu'il y a une volonté politique. Mmh. Visiblement, dans l'Aveyron, je ne sais pas si vous êtes rapprochés de nos chers politiques, sans faire de politique, hein, toutes tendances confondues. En particulier, le conseil général... les responsables du parc naturel des Grands Causses, bien évidemment, etc., etc. C'est dommage que tout ce potentiel ne soit pas utilisé. Je ne sais pas quelle sera, enfin, ou quelle a été vos démarches auprès de l'ADEME, également dans ce sens, parce que ça, ce serait vraiment intéressant. Une énergie qui existe, qui a été noyée dans le temps, en quelque sorte, et qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Alors, ma question donc sera, est-ce que vous êtes rapproché de ces gens-là, de l'ADEME, etc. Et malheureusement, tous ces gens que je viens de citer, quand ils parlent d'énergie renouvelable, nous abreuvent d'éolien industriel. Pourquoi ? Les gens doivent le savoir. Parce que ces gens-là ont de gros moyens financiers et qu'ils leur ont graissé la patte, tout simplement. Voilà. C'est tout.
Ah oui, bon. Effectivement, produire quelques kilowatts par rapport à une éolienne qui va fournir des dizaines, des centaines de kilowatts, on n'est pas dans la même catégorie. Pour l'instant, je n'ai pas... l'association Ouerga des Aimés des Moulins travaille depuis 25 ans. On a rencontré des maires, les élus et tout. On leur a parlé de tous ces problèmes-là. Mais pour l'instant, en Aveyron... de toute façon, vous savez, il y a quelque chose qui est assez curieux. C'est que déjà, pour les représentants politiques de l'Aveyron, l'Aveyron n'a jamais été un département industriel. Bon, il y avait quand même 1400 moulins. C'était pas industriel pour eux. Bon, ben, Voilà. Donc déjà, dans l'idée, c'est déjà quelque chose qui n'existe pas. Donc on a un pas à franchir, il faut faire de la pédagogie. Après, la question du développement rural avec la Pico Énergie, j'ai fait un dossier en présentant l'avantage de s'intéresser à cette question et tout. Ça ne semble pas intéresser les élus pour l'instant. Voilà. Je reste dans cette formule comme ça. Non, non, oui, oui. Là, le micro est coupé, je n'ai pas entendu. Oui, oui, non, mais ça, après, je ne sais pas. Je ne suis pas même de juger sur ce que vous annoncez. Mais déjà, il faudrait qu'il y ait un cadre plus large, une reconnaissance quand même d'un patrimoine, parce que les moulins, c'est la production d'énergie. Mais c'est souvent des bâtiments remarquables, des bâtiments qui ont une histoire. Un même bâtiment a été repris, élargi, agrandi, rehaussé. Donc on a un élément qui n'est pas pris en compte du tout dans la destruction d'un moulin, c'est de l'archéologie industrielle. C'est de l'archéologie industrielle. On peut trouver les traces du 8e siècle, 9e siècle, et à ce moment-là, c'est vraiment archéologique, vous comprenez ? Généralement, on considère que c'est Achilles Biel, Balparès, comme on dit en patois, excusez-moi pour l'accent, hein, c'est vieux, donc ça vaut rien. Je suis désolé, si on prenait ce principe à la lettre, on devrait tout raser. Bon, là, on a la chance d'avoir des sites de production. Alors, on vous dira qu'ils ne produisent pas comme le barrage de Saran, comme Pinet, tout ça, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est de produire au plus près. Et même si c'est peu, c'est toujours... Est-ce qu'on demande à un arbre s'il est rentable ? Non, il vous fournit l'oxygène au plus près. Voilà. C'est aussi bête que ça. Mais voyez, donc, la réflexion est encore en cours. C'est difficile d'aller voir des élus aussi en leur disant le matériel n'est pas complètement au point, il y a des réflexions, on est encore au stade de l'élaboration, de procédures, de réflexions. Je disais à Renucci, je lui ai dit il faut que tu présentes quelque chose de complet. Le jour où tu présentes la picoturbine, il faut qu'il y ait tous les tubes, il faut qu'il y ait le dégrilleur, tout intégré, le régulateur, tout. Hein, et qu'on se trouve un système pour que ce soit facilement transportable dans un véhicule normal, qu'on n'ait pas à avoir besoin d'une remorque, enfin des choses pratiques, vous voyez. Il faut que si on veut que ça ait du succès, il faut vraiment que ce soit simple, léger, efficace et durable. Voilà. Alors, quand c'est en fonte, bah, je suis désolé, une femme ne peut pas porter une pièce de fonte. Moi non plus, d'ailleurs, mais enfin, je me mets à la place de femme parce qu'on est fait différemment et il faut que ce soit installable par n'importe qui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un état des lieux, c'est une démarche qui est en cours. Ça bouge un peu partout en Europe. Je dirais qu'en France, AZ Technologies a bien visé. À l'époque, ils n'étaient pas bien conseillés parce qu'ils n'avaient pas de spécialistes des moulins avec eux qui leur expliquaient comment ça marche. Or, c'est important. Et la question de l'hydraulique qu'a soulevé la dame tout à l'heure, c'est important. De manière générale, pas que pour les grands barrages, la ressource en eau se limite. On vous parle de la crise énergétique, mais la crise de l'eau, elle est derrière. Hein. Elle est derrière, la crise de l'eau, parce que l'eau, depuis toujours dans l'histoire des moulins, c'est la guerre entre les irrigants et les producteurs de moulins, et les fabricants de farine. Sur le Monargue, on le voit ici, le ruisseau qui arrive dans Sainte-Afrique, c'est la guerre permanente entre celui qui arrose, qui prend l'eau, hein, et qui retient l'eau pendant des heures dans ses prés, puis quand il a pu arroser dans ses prés, il retient l'eau pour son moulin. Alors, plus personne n'a d'eau. C'était la guerre permanente entre l'irrigation et la production d'énergie. Aujourd'hui, c'est entre la consommation d'eau pour les maisons, les ménages, et la production d'énergie. On va être coincé sur cette double problématique. L'eau est à cheval sur les deux. Hein. Donc, il va falloir quand même qu'on se rende compte que l'eau, c'est cyclique, que l'énergie, c'est cyclique. Et qu'autrefois, quand les premiers moulins se sont mis à produire du courant électrique, on lançait la production d'électricité quand le moulin avait fini sa journée, quand il n'y avait plus de farine à produire. À partir de 9h du soir, on mettait le réseau électrique en route pour 2h, 2h30 au maximum. Et quand ça fermait, tout le monde allait au lit. C'était comme ça, les premières époques. Vous avez c'était vraiment le cas, par exemple, le moulin Boyer à Estaing, sur le Lot. Très connu pour ça, le propriétaire meunier, quand il avait fini sa journée de farine, il pesait 1 km, il allait au village boire un coup avec les copains. Et puis, il y restait un peu longtemps, quoi. Et puis la meunière était toute seule à rester là au moulin. Et puis à un moment donné, un client arrivait, et ben elle coupait le jus au tout le village, bing, et le meunier savait qu'il fallait qu'il rentre parce qu'il y avait un client. Vous voyez, c'était ce genre de choses. Ça servait aussi aux télécommunications. Voilà, j'en arrête là. Si vous avez d'autres questions. C'est ça aussi l'histoire.
Hein, j'ai déjà vu plusieurs fois en Aveyron, donc, que ce soit à Brusque, à l'Estrade, en fait, pas des micro-centrales, mais des centrales en fait qui sont assez grosses. C'est des conduites forcées ou disons des usines qui sont avec un, je ne sais pas quelle capacité au niveau énergétique. Mais je pensais que c'était ça en fait les micro-centrales. Donc je suis très intéressé du fait que finalement les pico-centrales dont vous parlez sont pour des installations beaucoup plus petites en fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour valoriser du patrimoine, mais je pensais aussi en fait comment on fait par exemple si on n'a pas de moulin et qu'on souhaite utiliser le cours d'eau qui longe. Là, c'est plus compliqué, non, pour les autorisations.
Oui. Bon, je vous reprends sur le mot central, parce que pour moi, le mot central et pico ou mini, ça ne peut pas aller ensemble. Central, c'est quelque chose de gros, d'énorme, et mini, c'est antinomique. Vous voyez ce que je veux dire dans l'expression déjà. Donc, usine hydraulique ou usine hydroélectrique. Moi, je pense qu'au point de vue sémantique, c'est plus juste. Il y a un problème aujourd'hui, c'est les autorisations. Si on veut dériver un cours d'eau sur lequel il n'y a pas de moulin, eh ben, il faut faire un dossier, il faut monter, faire preuve d'utilité, il faut faire un bilan écologique, on part dans des études pas possibles. Aujourd'hui, pour simplement renouveler un moulin qui fait, je ne sais plus, 50 kilowatts, je crois que quelqu'un m'a expliqué, c'est pas grand-chose, 50 kilowatts. C'est important, mais au niveau production, c'est pas grand-chose. On demande à la personne de faire les études que l'administration faisait autrefois. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire un bilan poisson, un bilan machin, 14 000 euros pour faire le bilan, 14 000 euros pour faire ceci, et aller. Pour comme ça, on empêche les gens de produire du renouvelable. Bon, moi, je veux bien qu'un moulin perturbe un peu la rivière quand il détourne le cours d'eau, mais il ne va pas détruire la richesse, la faune. Depuis 2000 ans, les premiers moulins à eau ont 2000 ans, c'était à Rome, enfin, c'est un peu avant. On n'a pas détruit la faune des rivières avec les moulins, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, on les accuse de tous les maux, on met des barrières administratives irréglementaires qui sont sans commune mesure avec l'usage normal d'un moulin. Donc vous imaginez, si vous voulez faire que 300 watts, toutes les barrières qu'on va vous mettre aujourd'hui, on n'a pas compris ça encore. On n'a pas compris. Je crois que la pollution est plus importante pour détruire la faune d'une rivière qu'un petit moulin. Hein. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Mais c'est pas facile de vouloir faire sa propre énergie aujourd'hui.
Si, on le fait soi-même. Hein. Moi, je sais qu'il y a des gens dans les Alpes, notamment, qui utilisent des systèmes avec, je ne sais plus quel système que vous parliez, avec une très petite conduite sur un très gros dénivelé.
Voilà, c'est ça. C'est peut-être la turbine Turgot.
Un
tambour
de machine à laver et voilà. Un alternateur. Quoi.
Voilà, une Turgot, c'est grand comme ça. Hein. À peu près. Mais bon, il faut 100 mètres de chute ou 50 mètres, ou 100, voilà.
On a des grosses pentes en Aveyron, ça.
Oui. Alors ça, c'est très utile, par exemple, quand vous allez faire de l'alpinisme, où tous les refuges sont équipés en picoturbine, hein, évidemment. Comme ça, ils ont l'autonomie électrique. Mais à vrai dire, il n'y a pas de cadre conceptuel, politique, qui prenne ça en cours. Donc là, aujourd'hui, faites-vous l'écho auprès de vos élus ou de vos amis de ce potentiel qui commence à bouger. Donc c'est qu'un rapport d'étape. J'espère pouvoir revenir dans quelques temps, vous présenter un peu l'évolution de la situation. Mais il faut savoir que ça bouge et que ça existe. Voilà. Il ne faut pas perdre l'espoir. Ce que je trouve beaucoup plus inquiétant, c'est la volonté de l'administration de vouloir détruire les ouvrages et de vouloir déclasser les moulins parce qu'ils ne produisent pas d'énergie. Or, quand on regarde l'histoire, et on l'a encore sur le cas de Sainte-Afrique, vous avez des moulins qui, pendant 50 ans, sont restés en ruine dans les siècles passés. Mais un jour, quelqu'un d'entreprenant ou qui avait un commerce à développer a repris les bases de ce moulin. Il n'a pas été condamné pour le moins. Or, aujourd'hui, quelque chose qui ne fonctionne plus est condamné. Est-ce qu'on va raser tous les châteaux parce qu'il n'y a plus de seigneurs ? Non. Est-ce qu'on rase les églises parce qu'il n'y a plus de pratiquants ? Non. Donc il faut être un peu logique dans sa démarche et de dire, on a un potentiel, au lieu de le raser, accompagnons les gens pour qu'ils puissent en faire un usage qui à la fin, a une répercussion économique sur la consommation globale d'électricité. Voilà. Merci. Donc si vous êtes intéressé par la littérature molinesque et molinologique, vous avez quelques ouvrages à vos dispositions. Ça ne parle pas de pico-énergie, mais justement de l'usage qu'on fait des moulins traditionnels. Voilà. Merci à vous. Au revoir.